This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All is beautiful, le vieux, c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Salut les amis.
Bonsoir.
Hey.
Bonsoir. Salut. Et mais Mélanie.
Oui.
Tu es toujours avec nous pendant
Absolument.
Que Simon sirote des frozen margaritas dans un resort all inclusive à Punta Cana, payé grâce aux émoluments considérables générés pendant ce podcast.
Rien n'est vrai dans cette phrase.
Rien. Tout est faux.
Rien. Pas un mot n'est vrai.
À part l'alcool.
À part l'alcool. C'est
ça, oui, par contre.
Ça, oui.
Mais bon. Il n'est pas à Punta Cana, on le
non,
sait.
Malheureusement. Bref, on s'en fout. Nous, on va aller bien plus loin que Punta Cana. On va aller sur Mars. Qui a également plein d'avantages, une zone franche économique,
c'est vrai.
Des conditions salariales très avantageuses pour les terriens volontaires et surtout, pour celles et ceux que ça intéresse, des mutantes à trois nichons.
Combien de temps vous restez sur Mars ?
2 semaines.
Est-ce que vous apportez des fruits ou des légumes sur la planète ?
2 semaines.
Excusez-moi ?
2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines.
Ah, c'est bien.
Attrape.
Vous aurez reconnu Total Recall de Paul Verhoeven avec Schwarzy, évidemment, notamment Sharon Stone également, dans l'un de ses premiers rôles grand public. D'après une nouvelle de Philip K. Dick, souvenir à vendre, We Can Remember It For You Wholesale en anglais. Est-ce que quelqu'un veut nous résumer le pitch de ce film ? Alexis.
Alors, Arnold Schwarzenegger, acteur principal de ce film, magnifique Arnold Schwarzenegger, qui incarne donc Douglas Quaid. Douglas Quaid qui travaille sur Terre, sur des chantiers, dans le futur, et qui un jour va faire une expérience un peu particulière. Il va aller dans une société qui s'appelle Recall, parce qu'il se trouve qu'il fait des cauchemars récurrents, et dans ces cauchemars, il s'imagine agent secret sur Mars. Et donc, il va dans cette société qui propose à ses clients l'implantation de faux souvenirs, comme une sorte de parc d'attractions cérébrales, et il décide de se faire implanter des faux souvenirs d'agents secrets pour vivre quelque part cette vie qu'il ne cesse de rêver et qu'il n'a pas l'occasion de vivre pleinement. Le problème, c'est que l'opération va partir en sucette puisqu'il va se réveiller avant l'implantation, persuadé d'être véritablement un agent secret. Et à partir de là, c'est le début des emmerdes pour lui parce qu'il va se retrouver victime d'un complot gigantesque qui touche jusqu'à son cercle intime, son épouse Laurie, incarnée par Sharon Stone, qui à l'époque n'est pas encore la star qu'elle deviendra plus tard. Et il va finir effectivement par aller sur Mars pour accomplir ce qu'il pense être un rêve et qui en fait est potentiellement sa destinée.
C'est-à-dire voilà. Rencontrer les prostituées à 300.
C'est un beau résumé.
T'as une fixette sur les prostituées.
Oui, vraiment, c'est
un projet passionnant pour plusieurs raisons. Déjà d'une, parce que c'est l'adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick, qui est relativement différente, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais surtout, c'est un projet qui a traîné pendant des années à Hollywood et qui a été notamment, dès le départ, travaillé par Dan O'Bannon et Ronald Shusett. qui ont commencé à le travailler avant de travailler sur Alien, Arthur.
En fait, c'est Ronald Shusett qui est allé voir Dan O'Bannon en lui disant « J'ai ce bouquin-là, j'arrive à rien en faire. »
Cette nouvelle, en l'occurrence.
Cette nouvelle, est-ce que tu peux m'aider ? Et ils ont commencé à bosser ensemble. Et au final, ils ont dit « Attends, on va d'abord faire autre chose avant, et cette autre chose sera Alien. » Il se trouve qu'en fait, c'est un film qui a mis, je crois, 10 ans, 15 ans à se faire.
Oh, plus au moins... que ça, quasiment une vingtaine d'années. Ouais.
Et en fait, il est passé entre les mains de plein de gens, et c'est hyper intéressant de suivre un peu le parcours. Par exemple, il y a un moment, question que ce soit David Cronenberg qu'il réalise. Alors quand vous voyez le film, vous dites c'est tout à fait logique, le traitement du corps maltraité, déchiré, abîmé, c'est tout à fait logique. Il y a même, si je me trompe pas, une idée dans le film de Paul Verhoeven, le mutant dans le ventre, ouais, qui est issu de la version de Cronenberg qui n'était pas dans le bouquin, pas dans la nouvelle de base.
Mais Cronenberg en a fait plusieurs versions en fait. Il a été
et lui, il a
considéré pendant très longtemps comme étant le réalisateur potentiel, ouais, et il a fini par s'en aller parce que la production de l'époque voulait un film d'action et que lui voulait un film plus compliqué.
De Cronenberg quoi.
Mais il reste effectivement.
Mais il a pas bien vécu cette expérience.
De la mutation et notamment celle de.
Celle du ventre mutant. Mais je crois que Cronenberg a pas très bien vécu cette expérience et en fait le scénario va se perdre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est Schwarzy qui va retomber dessus et qui va vouloir porter le projet. Et il se trouve que Schwarzenegger.
De Quato. Je cherchais le nom. C'est Quato.
Ouais, le truc c'est bizarre, Quato, c'est
Quato. Et il se trouve que c'est Schwarzy donc qui va retomber sur le projet. Il se trouve que Schwarzy adore Robocop. Et c'est lui qui va proposer à la production, parce que Schwarzenegger est producteur du film, c'est lui qui va proposer qu'on aille contacter ce petit réalisateur hollandais qui vient de faire un premier film américain qui s'appelle Robocop. Et c'est comme ça que débarque Paul Verhoeven sur le projet et que le film va se faire et que Paul Verhoeven va essayer de s'accaparer un peu ce projet en modifiant aussi le scénario. Et c'est assez intéressant, juste pour terminer, que ce soit Schwarzy qui récupère ce projet-là, parce que si je me gourre pas, dans la nouvelle, le personnage principal qui a un comptable est un gringalet pas très musclé.
Totalement. Du tout.
Et là, on se retrouve avec Schwarzy et la corpulence qu'on lui connaît.
Totalement. Dans la nouvelle originale, pour l'avoir lu, c'est vrai, l'histoire est relativement différente puisque Quaid aimerait aller passer des vacances sur Mars. Comme il n'en a pas les moyens, il utilise la société Recall qui lui dit on va vous donner la possibilité de vivre des vacances sur Mars et vous ne vous souviendrez pas d'être venu dans notre société. Et on vous enverra par la poste des souvenirs et vous aurez vraiment l'impression que ce souvenir a existé.
C'est un anti-Eternal Sunshine of the Spotless
Mind. C'est exactement le contre-Eternal Sunshine totalement.
C'est ça.
Ah, c'est marrant.
Ce film est donc une sorte d'agrégat. La trace de Cronenberg est très intéressante parce que vraiment on voit qu'elle y est restée dans une certaine forme de body horror ou en tout cas de mutation qui rappelle évidemment très très fortement le cinéma du cinéaste canadien. Sophie, comment est-ce que tu l'as vécu ? Quels sont les souvenirs que tu as de Total Recall ?
C'est rigolo parce que c'est un film que, comme d'autres, hein, notamment comme Robocop, mais qui est un film qui s'était pas mal mélangé dans mon esprit quand j'avais 16 ans. Je l'ai confondu avec beaucoup d'autres choses. Je savais pas que c'était un Verhoeven. Je l'ai vu comme un film d'action un peu lambda, puis pareil, c'était pas trop mon truc. Genre, je l'avais vu à la même période que Le Cinquième Élément, que des trucs qui mélangent un peu action, un peu de légèreté, et en même temps un peu de violence. Enfin, voilà, j'étais un petit peu sur ce concept-là. Donc, du coup, je l'ai revu, puisque pourtant Verhoeven est l'un de mes réalisateurs préférés. En effet, sans savoir tout ça, sans refaire les recherches, juste en reprenant un pur plaisir adolescent, bah en fait, il y avait un peu ce truc de « putain, ça c'est vrai que ça fait hyper Cronenberg ». Et puis, il y avait d'autres choses. Hein. À un moment, je me dis « purée, cet effet de voiture précis, on dirait du Joe Dante, on dirait que ça pourrait sortir de Gremlins, c'est un côté un peu cartoonesque ». Et ça, en fait, c'est un film qui est en effet une sorte de film somme de plein de réalisateurs qui ne sont pas du tout sur le projet. Et je trouve que c'est un film assez fascinant. De toute manière, je trouve que la carrière de Verhoeven est absolument prodigieuse, j'ai envie de dire. On est sur un deuxième film américain. Mais moi, ce que j'aime bien, là, quand je vois Sharon Stone dans le film, c'est que, en fait, ça m'a rappelé ce qu'il a fait avec Virginie Efira, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il voit cette actrice qui a un rôle à la fois assez important, mais pas un temps d'écran particulièrement grand. C'est-à-dire...
Mais un rôle important dans le film, malgré tout.
Mais un rôle important. Mmh. Et donc, du coup, au moment de faire Basic Instinct, c'est une évidence que c'est elle. Ça s'est fait comme ça. Et en fait, pour moi, c'est exactement ce qui s'est produit avec elle. C'est-à-dire que Virginie Efira, on doit l'avoir, je sais pas, peut-être 8-9 minutes dans le film. Mais par contre, elle a la scène finale. Et la scène finale, elle porte complètement le long métrage, et donc du coup Benedetta après. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime bien chez Verhoeven, c'est qu'on va retrouver toujours des passerelles, soit d'acteurs, soit de thématiques dans ses films. On peut pas regarder Total Recall sans penser à Starship Troopers. On ne peut pas voir Sharon Stone sans y voir ce qu'elle va devenir dans Basic Instinct. Et je trouve que c'est un mec qui a passé des pan de sa vie entier consacré à un type de cinéphilie associé à un pays, c'est-à-dire qu'il y a vraiment sa période néerlandaise, sa période américaine, sa période européenne, et pourtant il y a des liens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir Showgirls sans faire un pont avec Katy Tipple, qui est littéralement le même film. Et en fait, on peut se dire, comme moi à l'adolescence, genre, ouais, c'est un film avec Schwarzy, dans sa filmographie, ça veut peut-être rien dire, parce que ça a l'air d'être un projet qui allait de main en main, qui est passé par Cronet. Non, non, non. À chaque fois, ça s'inscrit. À chaque fois que Paul Verhoeven fait un film, ça s'inscrit dans une cinéphilie qui est dans une. Dès que Paul Verhoeven fait un film, ça s'inscrit dans une filmographie et ça devient démentiel en fait d'y réfléchir.
Mélanie, ton regard sur Total Recall.
Bah, en fait, c'est un petit peu comme Sophie, c'est que c'est un film que j'ai dû découvrir quand j'avais 15-16 ans et en fait, il s'est mêlé. Bah, exactement comme toi, c'est que c'est la même période où j'ai découvert Le Cinquième Élément, où il y avait aussi. Alors, j'avoue que je ne retrouve plus le film, mais celui où il y a l'histoire des coquillages.
Ah, Demolition Man.
Voilà, Demolition Man. Et en fait, le truc, c'est que j'ai confondu pendant des années Demolition Man avec Total Recall. Et en fait, je l'ai redécouvert il y a quelques années. Je me souviens que j'en avais pas eu un bon souvenir de Total Recall parce que justement, je trouvais que c'était un peu sale, que j'aimais pas beaucoup de choses à l'époque. Et donc, il y a quelques années, je me suis refait en fait plusieurs Verhoeven en une soirée. Je me suis fait Starship Trooper, Basic Instinct et Total Recall dans la même soirée. Enfin, journée, soirée. Ouais. Et en fait, je suis tombée en amour vraiment du réel, vraiment de cette période, alors vraiment de la période américaine. Donc, j'ai pas vu sa période néerlandaise ni sa période européenne, mais en fait, toute sa période américaine, je suis tombée vraiment en amour de ce qu'il a pu faire. Et je trouve qu'il a une esthétique et surtout une manière en fait aussi de c'est un thriller quand même Total Recall et en fait c'est un thriller qui est ultra efficace parce que on suit vraiment le personnage dans le fait qu'il soit complètement perdu. Ça me fait aussi beaucoup penser à Minority Report.
Exactement.
Et en fait justement je trouve que c'est ultra appréciable ce genre de film où le personnage principal a une vie assez banale et au final en fait il y a quelque chose qui le fait devenir quelqu'un d'autre et lui fait en fait repenser qui il est. Et je trouve que c'est vraiment en fait un film qui est très efficace et qui moi me touche tout particulièrement et même toutes les scènes justement sur Mars. En fait, il y a aussi un message qui est ultra politique. C'est voilà, sur Mars, on a ce grand méchant qui a quand même le droit de vie et de mort sur toute la population. Et je trouve que c'est vraiment très très fort. Et il n'y a pas un moment qui est inutile dans le film. Et surtout, il y a tellement de lectures possibles. Ça, c'est quelque chose, de toute façon, je pense qu'on va en reparler, de qu'est-ce qu'était vraiment la réalité de Douglas Quaid. Et je pense que c'est vraiment l'essence même du film, c'est quelle est sa véritable réalité, et c'est là où le cinéma de Verhoeven est formidable, c'est qu'il y a toujours plein de lectures différentes, et Total Recall est vraiment l'apogée de cette idée-là.
Sans en arriver là, peut-être un mot, Alexis, sur effectivement ce mix qui est le résultat final de Total Recall, c'est-à-dire avec l'introduction et l'intervention de Cronenberg. On est face à un film de science-fiction qui va ouvrir des portes dans la représentation de la SF un peu différente en fait à partir des années 90, c'est que c'est effectivement la porte ouverte à ce que va pouvoir être Starship Troopers derrière, c'est-à-dire que d'un seul coup on est dans une SF un peu gore, un peu organique, un peu sexuelle, un peu bizarre et vraiment pas très fréquentable en fait.
Complètement, parce que je pense que ce que Verhoeven a apporté à la science-fiction avec Total Recall, mais il l'avait déjà apporté en un sens avec Robocop, qui est d'ailleurs, je pense à la réflexion, un film beaucoup plus violent que Total Recall.
Bien sûr,
parce que Total Recall, il y a un côté cartoon qui fait évidemment. Que chaque...
Les yeux qui sortent de la tête, c'est toujours désagréable.
Bien sûr, mais il y a un côté délirant.
C'est même repris dans Toy Story, donc c'est
exactement,
pour dire.
Exactement, tu vois. Mais le fait est que Robocop, pour le coup, il y a des scènes de violence gore qui sont premier degré, quoi. Ouais, qui sont vraiment des scènes.
Le type qui fond dans l'acide.
Voilà, il y a des trucs qui appartiennent vraiment à un cinéma bis, à un cinéma d'exploitation, quoi. Le genre de truc que normalement on ne retrouve pas en salle, a fortiori pas dans un blockbuster. Et le truc, c'est que.
Dans un destructeur de quartier.
Exactement. Mmh. Ce qui est intéressant avec. Avec Total Recall, c'est que ce film-là, effectivement, comme tu le dis, Nicolas, va ouvrir les portes de la représentation de la SF, mais en fait, je pense que ce film est un film important parce qu'il est né d'un coup de chance qu'a eu Paul Verhoeven, en fait. C'est-à-dire que Paul Verhoeven, il est arrivé avec son identité d'auteur néerlandais, d'auteur politique, d'auteur engagé, qui avait pour objectif, déjà dans son pays natal, de faire voler en éclats les conventions de la représentation, avec cette idée que la science-fiction, puisque c'est un genre qui a longtemps été quand même un genre de niche et qui justement est en voie de démocratisation, eh ben il faut que la science-fiction assume sa puissance évocatrice, et pour assumer sa puissance évocatrice, eh ben il faut que la SF, faut que le fantastique, faut que le cinéma de genre aille du côté de la sexualité, aille du côté de l'ambiguïté, aille du côté de la violence. Que la science-fiction s'assume dans un geste politique comme un genre qui fait voler en éclats les conventions de la représentation. Là où c'est intéressant, c'est qu'il faut rappeler l'histoire personnelle de Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, il a été au milieu des années 70, de mémoire c'est 73 ou 74, peut-être même un peu avant, il a été plusieurs fois sacré Mister Olympia, c'est-à-dire qu'il a reçu plusieurs fois le titre le plus prestigieux du monde du bodybuilding. Il faut savoir que le bodybuilding, aujourd'hui, ça a été complètement démocratisé. C'est une pratique sportive totalement acceptée par la société. À l'époque où Schwarzenegger fait du bodybuilding, où il arrive d'Europe, il s'installe aux États-Unis pour faire du culturisme, c'est un fric. Il est considéré par la société comme une espèce de mec déviant qui travaille sa musculature jusqu'à devenir une espèce de monstre. Et il y a tout un pan de la société américaine qui n'accepte pas.
Il y a des textes majeurs là-dessus, de Chuck Palahniuk notamment.
Bien sûr.
Le Festival de la Couille.
Qui est
un recueil de nouvelles merveilleux sur lequel il parle notamment de festivals.
Bien sûr, et il y a un livre.
De ses conventions de bodybuilding.
Et il y a eu aussi un livre consacré à la figure de Schwarzenegger qui est beaucoup plus théorique que les œuvres de Palahniuk, mais qui est intéressant sur cette question-là, qui est Prodige d'Arnold Schwarzenegger, écrit par Jérôme Momcilovic, qui revient en partie sur cette question-là. Et en fait, le culturisme est considéré à l'époque où Schwarzenegger le pratique et où à l'époque où il en devient une star, c'est considéré comme une pratique déviante, une pratique anticonventionnelle, quelque chose qu'on n'a pas envie de considérer avec importance. Donc Schwarzenegger, il vient d'un milieu anticonventionnel. Donc c'est pas anodin que, après avoir été Terminator pour James Cameron, après avoir été cette espèce de monstre musculeux, surhumain, robotique, après avoir été Conan le Barbare pour John Milius, cinéaste qui est quand même, à plein d'égards, un cinéaste ambigu, qu'entretient toujours un rapport conflictuel et avec la production et avec le public, c'est logique que cet acteur-là continue de s'intéresser à des propositions de cinéma qui sortent des sentiers battus, puisque lui-même a fait sa carrière en sortant des sentiers battus de son époque. Et donc, pour moi, c'est là où est l'acmé créatif de Total Recall, c'est cette rencontre entre deux personnes qui viennent de milieux politiques et de milieux culturels radicalement différents et qui pourtant vont se rencontrer sur justement le terrain de l'anticonventionnalisme, si je puis dire.
Oui, deux personnes, parce que tu l'as dit, c'est Schwarzy et c'est Verhoeven, donc deux Européens. Ce qui est intéressant, c'est que Paul Verhoeven, il a un bagage qui est que, quand il était plus jeune, il a fait des films militaires pour l'armée hollandaise. Des films qu'on pourrait juger de propagande, mais qu'importe. Il a ce code-là de ce que c'est que de filmer l'armée et quels sont les codes de communication. Et c'est quelque chose qu'on retrouvait dans trois films majeurs qu'on a déjà cités, et dans l'ordre Robocop, Total Recall, et Starship Trooper, et notamment dans Starship Trooper. Et du coup, la rencontre de tout ce que vient de raconter d'Alexis de Choisy et d'un Paul Verhoeven qui arrive à Hollywood, qui a ces codes-là, qui veut critiquer une forme d'impérialisme, un capitalisme américain, et qui a Hollywood pour le faire, fait que du coup, il y a une rencontre magique. Et en plus, si je puis me permettre, on ne sait pas à quel point ce qui était de Cronenberg est resté, ce qui a ajouté Verhoeven. Il y a un truc qui me semble évident, c'est que Total Recall est un film qui peut être assez drôle. Ouais. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un ajout de Verhoeven et pas de Cronenberg. Alors que toutes les transformations physiques, par exemple, c'est intéressant de noter.
Il y a des effets spéciaux incroyables.
De Rob Bottin.
De Rob Bottin, celui de la femme qui ouvre son visage, ouais. Ou celui de Qualo qui rentre et qui ouais. sort du ventre, qui sont vraiment des choses qui sont extrêmement marquantes et qui sont vraiment qui vont ancrer Total Recall vraiment dans l'histoire de la science-fiction. C'est-à-dire que même les quelques effets spéciaux où il se retrouve sur Mars sans casque avec le visage qui commence à devenir asphyxié, sont des effets spéciaux qui restent et qui restent ancrés profondément dans l'histoire de la science-fiction.
Oui, mais tu vois, par exemple, Rob Bottin, donc c'est pour les gens qui ne le situent pas, c'est un artiste effets spéciaux, maquillage, qui a notamment été connu pour le travail sur The Thing de John Carpenter en 82. Quand on regarde The Thing, c'est un cauchemar qui fait vraiment peur 40 ans plus tard. Quand on regarde Total Recall, ces effets-là, qui sont marquants et importants pour l'histoire de l'ASF, ils ont un côté parfois...
Ils sont terrifiants, vraiment.
Eh ben, je suis pas sûr.
Les yeux qui sortent du visage sont des effets spéciaux terrifiants.
Et en même temps, je peux pas m'empêcher d'y voir une forme de ludisme un peu rigolo. Mais ce qui veut pas dire que c'est pas important pour l'histoire de l'ASF, hein, attention. Mais je peux pas m'empêcher d'y voir une autre forme d'horreur que ce qu'il a fait sur The Thing, par exemple.
Ouais, mais en fait, le truc, c'est que justement, tu prends l'exemple du moment où il a les yeux qui sortent vraiment de sa tête quand il est asphyxié sur la planète Mars. Et justement, ce qu'on disait avec Sophie, c'est qu'il y a un côté très Roger Rabbit. Sauf qu'en fait, cette scène est encore aujourd'hui terrifiante. Oui, tu vois un peu les ficelles, tu vois que c'est un masque en silicone, tu le vois. Mais en fait, c'est, je trouve, beaucoup plus visuel que n'importe quel body horror qu'on pourrait voir maintenant, parce que justement c'est tellement exagéré que ça te marque vraiment. C'est, enfin, moi en tout cas, n'étant pas très friande de tout ce qui est body horror, voilà, de ce genre de choses, parce que bah, c'est terrifiant, parce que ça ressemble à du réel. Là justement, en fait, il y a peut-être, je suis d'accord, un côté un peu cartoonesque, mais en fait ça va tellement à l'excès que t'en es encore plus happé. Et il y a quelque chose en fait de démesuré qui te marque d'autant plus, et vraiment cette tête de Qued, et surtout voilà, d'un personnage à la fin pareil qui finit asphyxié, mais qui t'as l'impression qu'il va exploser, c'est terrifiant.
Mais Mélanie, en dehors de ça, la sortie de Quato du ventre,
c'est terrifiant.
Les yeux différents, enfin moi, c'est moi qui ai vu ça au cinéma. Je vous assure que c'est vraiment des vrais trucs traumatiques, et c'est là où on sent la patte de Cronenberg, et où on sent
tout à fait
quelque chose qui d'un seul coup fait marque dans l'histoire de la science-fiction, parce que c'est absolument dégueulasse et qu'il y a quelque chose vrai. Enfin, moi qui m'a foutu la trouille en 90, j'avais 14 ans et j'étais pas bien, quoi. Enfin, ça m'a habité derrière, en fait.
Et en même temps, t'as une femme avec trois seins et ça, c'est guignolesque. C'est pas des transformations qui ne sont que traumatisantes.
Je sais pas si c'est vraiment si c'est vraiment cartoonesque ou si c'est un peu sexuel premier degré. Genre je franchement désolé, j'ai encore fait une rêve drague.
Non mais t'as absolument raison, mais en fait ça dit quelque chose aussi de la façon de la représentation des corps.
C'est ça.
C'est-à-dire que le monstre peut sortir du corps de l'homme, mais la femme reste une sorte de guignol sexuel.
Enfin, ouais, mais je pense que cette femme à trois seins a été reprise notamment par Ivy Oddly, la gagnante de la saison 11.
Si vous parlez pas de Drag Race, je crois qu'il y a un truc qui se passe dans ce podcast.
Moi j'explose.
Malédiction.
Bah tu vois la fin de Total Recall, bah aïe, pareil. Aïe. Non, et en fait c'est pas inintéressant comme réflexion, parce que il y a rien qui se moque techniquement de ce corps différent là. C'est-à-dire que il y a plein de manières dont le corps est je ne vais pas forcément dire déformé, parce que c'est un peu connoté, mais vraiment modifié sur Mars. Et notamment, cette femme à trois seins, ça nous surprend. Mais il n'y a aucun moment de moquerie. Il y a même un espèce de palpage que je trouve très, 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 très sexuel. Okay. C'est-à-dire que moi, il aurait fait le même geste sur une nana à deux seins, ou même à un seul. En fait, j'aurais eu la même réaction.
Mais du coup, ce n'est pas une transformation qui fait peur.
Mais ce qui est intéressant, c'est que...
Mais non, mais c'est le spectre des transformations.
Ce qui est intéressant, c'est que cette femme à trois seins, comme la serviette autour de la tête ou le robot qui est trop aimable, etc., sont des choses qui ne viennent pas directement pour le coup du scénario, mais qui viennent d'un grand classique de la science-fiction, qui est le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Et c'est des éléments qui ont été repris et qui ont été injectés dans le scénario de Total Recall.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Cool. Une dernière question, peut-être rapidement pour faire un tour de table. Est-ce qu'il rêve ou pas?
Alors,
Vas-y, Mélanie.
C'est difficile de ne pas spoiler le film, attention.
Bah, c'est ça, c'est que, en fait, en gros, sur Total Recall, il y a plusieurs manières de lire, on va dire, le film. C'est soit on suit l'histoire comme elle nous est montrée, soit, bah voilà, donc l'idée, c'est qu'il se fait implanter un souvenir, un rêve. Et ce serait de croire que ce qu'il voit, en fait, est en fait un rêve. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qui est génial dans toute la mise en scène du film, c'est qu'on n'a jamais la réponse. C'est que vraiment, en fait, regarder, re-regarder le film, c'est en fait essayer vraiment de voir le film en vous disant « Ok, là, je me dis... » Non, c'est vraiment l'histoire de base, c'est il veut se faire implanter un souvenir, mais en fait ça marche pas et en fait il lui arrive tout un truc. Ok, ça c'est l'histoire de base. Puis après, dites-vous, si ça se trouve, il s'est fait implanter le souvenir. Et en fait, tout fonctionne. C'est que ce soit les échanges de regards, ça par contre, il y a vraiment un travail sur les échanges de regards qui est absolument dinguissime, que ce soit avec le personnage justement de Sharon Stone, qui a de très longs regards à certains moments qui sont très évocateurs. En fait, tout te donne le doute jusqu'à la fin. C'est vraiment, en fait, il faut regarder tous les détails. C'est, si je peux conseiller, voilà, une vidéo, si vous avez vu le film, c'est une vidéo de la chaîne YouTube La Théorie de Graham, qui justement aborde les différentes lectures du film et que je trouve absolument pertinente. Bon, je ne suis pas d'accord sur absolument tout, mais il y a quand même des lectures qui sont assez pertinentes. Et on a tout le temps des doutes. Et je trouve que c'est là où Verhoeven a vraiment réussi le film. C'est qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on en est.
Bah, je pense même que, pour être un petit peu provocateur, je pense qu'il a réussi brillamment ce que Inception a raté. Wow. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que poursuit comme idéal artistique Christopher Nolan ? C'est le vertige induit par le brouillage, la confusion entre rêve et réalité. Or, comme Christopher Nolan, qui n'est pas un cinéaste déméritant par ailleurs, mais comme Nolan est un mec extrêmement pragmatique, extrêmement terre-à-terre, il ne peut pas s'empêcher de respecter la règle qu'il s'est fixée au début et qu'il aurait dû pervertir, qui est que fondamentalement, le film Inception te dira toujours à quel moment tu es dans la réalité, à quel moment tu es dans le rêve, et il essaiera de te duper avec le truc de la toupie, mais on sait très bien que c'est du bullshit. Aujourd'hui, le film a été décodé, on sait que ce qu'il faut regarder, c'est l'alliance de DiCaprio, et donc en fait, le film te donne la réponse. Là où Verhoeven est plus intelligent que ça, c'est que, à mon sens, et ça, ce n'est que mon interprétation, il te donne la clé du mystère. Pour moi, Douglas Quaid ne rêve pas. Ça, c'est ma lecture personnelle du film, mais parce que de mémoire, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais ce n'est pas possible de faire un rêve où vous n'êtes pas présent. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Scientifiquement parlant, si vous rêvez de quelque chose, vous êtes forcément dans l'espace. Vous pouvez être la plus passive de votre rêve, vous pouvez être simplement spectateur, vous n'agissez en rien sur ce que vous voyez, mais vous êtes quand même présent. Or, il y a dans le film plusieurs séquences où
pas
Douglas
Quaid...
Mais il y en a.
Attends que ça, le fameux dieu Inca de la défiance.
Je l'ai évoqué pour toi. Hein,
oui, mais le fait est que, même s'il y en avait en tout et pour tout, qu'une seule, il y a des séquences dans le film où Douglas Quaid n'est pas présent, ce qui n'est pas possible dès lors qu'on suppose que le film est un rêve. Ça n'est pas possible. Donc, pour moi, le film te donne la réponse. Sauf que, contrairement à Inception, qui va te donner la réponse par des faits de scénario, c'est-à-dire qu'il va t'expliquer comment ça fonctionne, pour qu'ensuite tu puisses te dire, toi, spectateur, « Ah, ok, donc là, ils sont dans le rêve parce que ça n'a pas la même vitesse que l'autre niveau. » Bref. Lui ne te dit pas, en fait. Il te donne la réponse, mais il ne te dit pas qu'il te la donne. Et c'est là où est tout le vertige du film. C'est là où je trouve ça intéressant.
Et sauf qu'Alexis, si je peux me permettre, avant de tenir la parole de Sophie, Verhoeven dit « Total Recall est un voyage à travers l'esprit humain. Le spectateur croyant assister à une SF classique sent soudain un abîme se creuser sous ses pas et se demande si ce qu'il voit est la réalité ou les fantasmes d'un homme. » Ce film a pour sujet la schizophrénie. Donc, il va exactement à l'encontre de ce que
mais
tu viens de dire.
Peut-être, ça n'enlève rien au fait que c'est ce que je vois dans le film, moi.
C'est très bien, mais je te dis, c'est ce que vit, c'est ce qu'a fait. Ensuite, les, vision, les réalisateurs ne sont pas les.
Bien sûr, mais en plus.
Personne pour parler de leur
travail. Je terminerai là-dessus. Là, indépendamment de se poser la question de est-ce qu'il rêve ou pas, moi je trouve que ce qui est vraiment sidérant dans le film, c'est à quel point il est en avance sur son temps. Et il est en avance de précisément 9 ans, puisque le film sort de mémoire en 1990, ouais, précisément. Donc en plus, à une époque où Arnold Schwarzenegger est une figure déjà un peu anachronique du cinéma d'action, on reviendra peut-être là-dessus. Et du coup, il sort 9 ans avant Matrix. Mm-hmm. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, en fait. C'est-à-dire que on retient dans l'histoire de la pop culture Matrix comme étant le premier blockbuster à avoir questionné la réalité de la société, à avoir questionné le fonctionnement de notre
monde. Il y a eu Dark City juste avant.
Alors, il y a eu Dark City, mais Dark City n'a pas marché. Oui, et c'est pas vrai. Techniquement un blockbuster.
Mais c'est pas faux.
C'est pas techniquement un blockbuster. Alors que Total Recall est un film quand même relativement à gros budget, même si ça reste une série B, c'est une série B luxueuse, qui s'adresse au plus grand nombre. Et 9 ans avant Matrix, il pose exactement les mêmes questions. Et c'est là où ça devient passionnant, je trouve.
Et, si je puis juste me permettre, oui, c'est qu'il y a un petit rapport entre Matrix et Total Recall aussi, qui est juste la pilule rouge.
Oui,
qui, justement. Et en fait, le truc, c'est que les sœurs Wachowski ont repris cette idée de la pilule rouge, justement, à Total Recall. Donc, en fait, les films sont ultra liés et que je suis d'accord que le film est vraiment en avance là-dessus, mais en fait il y a une liaison qui est évidente et je pense qu'il y a une lecture qui peut se faire entre les deux films. Et je rajouterai quand même Dark City, qui pour moi est un film en fait qui fait partie un peu de cette trilogie de qu'est-ce que la réalité, qui s'inscrit vraiment entre ces trois films qui pour moi vraiment sont vraiment la base justement de cette renaissance, on va dire, de la science-fiction, de la réalité et de la non-réalité.
Moi, j'allais juste répondre à la question de Nicolas, et de manière un petit peu étrange, qui est que, c'est drôle, c'est un des seuls films où je m'en fous d'avoir la réponse. C'est hyper intéressant, parce que normalement, ça m'agace de pas l'avoir, ou ça m'agace si on me prend pour une idiote et qu'on me la donne. Enfin, vraiment, j'ai un rapport hyper pervers à ce genre de choses, parce que j'adore déchiffrer un film avant, à la première séquence, trouver le twist. C'est mon truc. J'adore regarder la séquence d'ouverture et dire, j'ai trouvé. Et là... Pour une fois, Total Recall, j'en ai rien à battre. Parce que la narration est tellement généreuse que le film peut m'emmener où il veut. Et ça va avec la réalisation de l'exté. C'est-à-dire que Paul Verhoeven est un réalisateur excessif en tout point sur tous ses films. Il va pousser tous les potards. Il va du coup complètement perturber la sensation de perception de son spectateur. Il va lui promettre quelque chose et il va jamais complètement le respecter. Du coup, il va le désorienter avant même d'avoir commencé à lui raconter complètement son histoire. Donc en fait, moi, je m'en fous qu'il soit encore dans la réalité, qu'il soit schizo, qu'il soit pas. Sa narration est formidable. Ce qu'il nous propose visuellement est formidable.
Et c'est ça, c'est que Total Recall crée des images iconiques de la science-fiction des années 90.
Bien sûr.
L'image de ce visage de femme qui s'ouvre.
Incroyable.
Ou en tout cas,
on l'a retrouvé dans Men in Black après.
Oui, ou en tout cas même les images de squelettes. Qui sont passés derrière des espèces
de
rayons X. Enfin bref, et encore une fois, la femme à trois seins, ce monstre qui sort du ventre, Total Recall crée des images iconiques de la science-fiction des années 90 que peu de films créent à ce point-là.
C'est l'un des aspects géniaux plutôt de Paul Verhoeven, c'est que Paul Verhoeven est un cinéaste qui, bien qu'il ait travaillé à Hollywood, est toujours resté très critique vis-à-vis de l'industrie hollywoodienne et de comment l'industrie hollywoodienne fabrique des films. Néanmoins, c'est un cinéaste qui a envie, avant toute chose, d'offrir à son spectateur une expérience qui soit divertissante, qui soit spectaculaire, et donc il va travailler la dimension spectaculaire des genres auxquels il s'attaque en premier lieu, parce que il pense, et c'est là où je trouve qu'il a raison et qu'il est génial, c'est qu'il pense que pour pouvoir mettre en lumière ce qu'il a envie de raconter, il faut que le film soit divertissant, qu'il soit attrayant, qu'il soit spectaculaire, qu'il soit généreux. Et c'est ce qu'il a travaillé dans Robocop, dans Total Recall, dans Starship Troopers, qui, je pense, sont plus grand film américain.
Et dans Josiane, 45 ans.
Et Secrétaire évidemment.
Ah, pas mal. J'avais dit le titre en entier.
Je le biperai. Je le biperai. Je le biperai. Ce sera bipé.
Arthur, pour conclure.
Moi, un des aspects qui m'intéresse le plus dans les trois films américains, mais en fait dans la filmographie complète de Verhoeven, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu, c'est l'aspect politique, la critique. Et dans Total Recall, le côté un peu gouvernement qui nous manipule, qui nous ment, fait que j'ai envie de croire à cette histoire. Et j'ai envie de croire qu'il ne rêve pas et que l'aventure qu'il vit est réelle et qu'il y a vraiment une espèce de complot qui dépasse tout l'être humain que dénonce Verhoeven comme dans chacun des films de Verhoeven. Donc rien que pour le côté un peu critique de la politique. Et en plus, il y a d'autres biais politiques qu'on pourrait aborder justement sur la peur de la difformité, la peur de l'autre, de la différence. Et Mars qui est en fait une espèce d'allégorie de juste vouloir partir ailleurs. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que j'ai envie de croire que c'est pas un rêve.
Est-ce qu'on dit un mot quand même tout de même du remake de Ellen Wiseman en 2012 ou pas?
Alors, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai lancé le film pour le revoir, je suis tombée dessus et je fais « Mais qu'est-ce qu'il fout là, Colin Farrell ?» et c'était très... Ça a duré 4 secondes, mais je suis... Alors, je l'ai pas vu le film
on
depuis longtemps, mais
quand même.
Que Colin
Farrell soit sorti de cette époque-là de blockbuster.
Phone Game, c'était fun.
Ouais, c'est super, mais on est content qu'il soit plus dans Daredevil et autres.
Exactement.
Et que maintenant, il soit à élever un âne en Écosse.
Même si ça lui a permis de faire Miami Vice, qui est un chef-d'œuvre.
C'est vrai.
Donc, nous ne parlerons pas du remake de Len Wiseman en 2012. Est-ce que vous êtes plutôt 300 ou plutôt un bébé à l'intérieur du ventre? Ou est-ce que vous êtes plutôt les yeux qui sortent du visage quand vous allez à l'extérieur? Eh bien, vous pouvez nous dire tout ça en commentaire. En tout cas, Total Recall, le remaster 4K Blu-ray, et ressort aux éditions Studio Canal. Mais ce n'est pas tout, puisque comme vous le savez maintenant, les mardis, nous vous offrons un peu à la manière de la société Recall une plongée dans l'esprit malade, perturbé et cinéphagique de nos chroniqueurs. Soyez prévenus, parfois ça colle un peu aux parois. Ça sent pas très bon. Il faut ouvrir grand les fenêtres. Cette semaine, nous allons plonger dans le cerveau d'Alexis. Un film au cœur de ta cinéphilie et qui ressort cette semaine, ça tombe bien, en Blu-ray 4K également chez Studio Canal, The Deer Hunter de Michael Cimino. Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino avec Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep également. Alexis, il faut prévenir un peu les gens qui nous écoutent. Voyage au bout de l'enfer, c'est une expérience cinématographique pas simple.
Non, c'est pas évident. Pour donner un ordre d'idée, histoire de situer l'impact qu'a eu le film sur moi, je considère The Deer Hunter comme un de mes films préférés. Parce que j'ai arrêté de classer mes films préférés il y a longtemps, mais
pareil,
ce film est unique pour moi malgré tout, parce que j'ai attendu longtemps avant de le voir et j'ai fini par le voir en salle, parce que je voulais le voir en salle, j'ai eu la chance de le voir en salle à Paris, et c'est à ma connaissance, en tout cas aussi loin que je puisse m'en souvenir, le seul film qui m'a obligé en sortant de la salle à physiquement m'appuyer contre quelque chose pour ne pas m'écrouler par terre, vraiment. Parce que The Deer Hunter, pour resituer très rapidement, c'est donc un film de Michael Cimino, c'est son deuxième long métrage après Le Canard d'Or avec Clint Eastwood et Jeff Bridges. C'est un film qui sort en 78, qui a été récompensé par un sacré paquet d'Oscars et qui a
beaucoup,
été
ouais.
Un gros succès populaire à l'époque.
Et pas critique du tout.
Et pas critique du tout, non, il s'est fait taxer d'être fasciste, etc. Mais le film raconte l'histoire d'un petit groupe de potes issus d'une communauté d'Europe de l'Est, immigrés d'Europe de l'Est, qui vivent aux États-Unis, qui sont ouvriers sidérurgistes et qui vont aller faire le Vietnam et qui vont revenir de la guerre du Vietnam complètement traumatisés. Résumé comme ça, on a l'impression que The Deer Hunter, parce que le titre français est vraiment nul à chier, donc je vais l'appeler The Deer Hunter, on a l'impression que le film, grosso modo, s'inscrit dans la lignée d'autres films, voire même anticipe d'autres films sur la guerre du Vietnam, comme par exemple Platoon d'Oliver Stone, sauf que The Deer Hunter ne parle pas de la guerre du Vietnam. Il parle d'une communauté fracturée par une catastrophe et de comment cette communauté va essayer, malgré tout, contre la fatalité, de rester soudée, de rester, justement, communautaire. C'est un film mélodramatique, extrêmement puissant, extrêmement bouleversant. Il me faudrait, mais littéralement, des heures pour expliquer tout ce qui me passionne dans le film. La seule chose que je vais me contenter de dire, et après je te laisserai la parole, Nicolas, parce que je sais que c'est un film très important pour toi aussi, c'est que quand on s'intéresse à la période du Nouvel Hollywood et donc de cette espèce de parenthèse enchantée des années 70 où les auteurs ont repris le contrôle sur les studios et ont commencé à faire des films extrêmement personnels qui étaient en prise directe avec le réel et qui avaient surtout digéré toutes les nouvelles vagues de cinéma européen et en même temps tous les fondements du classicisme hollywoodien, les films de John Ford, de Howard Hawks, de King Vidor et compagnie. Et bah, quand on s'intéresse à cette période-là, Voyage au bout de l'enfer, c'est le film terminal du nouvel Hollywood. Voyage au bout de l'enfer, c'est à la fois le climax du nouvel Hollywood et sa fin. Et sa mort, même, j'ai envie de dire. Et c'est un film passionnant, c'est un film bouleversant, c'est un film extrêmement difficile à regarder, mais vraiment.
C'est très difficile.
C'est dur à regarder, c'est dur à traverser, mais c'est, en ce qui me concerne, une étape cinématographique obligée si on veut comprendre ce qu'est le cinéma américain et surtout ce qu'il a été.
Pour moi, Voyage au bout de l'enfer est un film essentiel et je vais dire quelque chose qui va peut-être même fâcher certains d'entre vous de cette table. Pour moi, c'est un film plus important qu'Apocalypse Now.
Ah bah bien sûr.
Pour moi, c'est un film plus fort et qui a changé mon rapport du film de guerre. J'ai jamais été très très fan des films de guerre. J'avais vu Platoon, enfin bref. J'avais vu Apocalypse Now aussi, mais Voyage au bout de l'enfer est quelque chose qui transforme complètement votre rapport à la représentation de la guerre. Parce que la guerre n'est pas son sujet, comme exactement tu l'as brillamment dit. C'est assez amusant parce que j'ai vu Voyage au bout de l'enfer à peu près en même temps qu'un autre film totalement traumatique sur un sujet totalement similaire. Et j'aimerais bien en discuter avec toi. Et Alexis n'est pas au courant que je vais dire ça. Mais j'ai vu Voyage au bout de l'enfer la même soirée que j'ai vu Une balle dans la tête de John Woo. Et Voyage au bout de l'enfer, dans le sens inverse. J'ai vu Voyage au bout de l'enfer d'abord et Une balle dans la tête après. Et donc, j'ai vraiment. Je mélange ces films complètement sur une forme de rapport traumatique et de manière complètement différente parce que les points de vue sont évidemment différents, puisqu'il y a un point de vue américain et qu'il y a un point de vue américain qui est, encore une fois, pas du tout un point de vue moralisateur ou historique sur la guerre du Vietnam. Et d'un seul coup, de l'autre côté, une forme de rapport. Si t'as pas vu Une balle dans la tête, il faut que tu vois Une balle dans la tête.
Je le verrai, promis.
J'ai vu
pas mal de John Woo, mais pas celui-ci encore.
C'est un film fou de dureté et de violence et qui, pour moi, sont vraiment deux expériences cinématographiques côte à côte. Bref, peu importe. Non, et peut-être pour redire un mot et pour te renvoyer la balle, ce qui fait de Voyage au bout de l'enfer un film dur, c'est un film de 3 heures. C'est un film effectivement long. Moi, c'est un film que j'ai eu du mal à voir d'une seule traite pendant très longtemps. J'avais besoin de faire une pause au bout d'une heure, une heure et demie pour respirer parce que c'est un film évidemment, qui suffoque. Et l'une des scènes principales, qui est une des scènes importantes, c'est la scène de la roulette russe. Tu peux nous en dire un mot ?
C'est une scène qui est très particulière, déjà parce que c'est une scène extrêmement difficile dans ce qu'elle met en scène, hein, tout simplement. C'est qu'on a donc ces personnages qui ont été capturés par les Viet Cong et qui sont obligés de s'affronter à la roulette russe, alors qu'ils sont amis, donc il y a déjà un enjeu extrêmement lourd. Mais surtout, la scène a été tournée dans des conditions particulièrement difficiles. Donc ça n'a pas été tourné au Vietnam, mais ça a été tourné dans un pays d'Asie du Sud-Est. Donc vraiment,
En Thaïlande,
voilà. Dans un pays où il fait extrêmement chaud, où les conditions de tournage sont très difficiles. Et en plus, c'est Robert De Niro lui-même qui l'a dit, ça a été la scène la plus difficile à tourner de sa carrière, parce que, il faut savoir que pendant la séquence, donc pour situer dramaturgiquement, les personnages refusent de jouer à la roulette russe. Ils refusent de jouer à ce jeu-là. Et donc, les geôliers les frappent, les tabassent pour les forcer à jouer à la roulette russe. Et les coups portés aux comédiens sont tous réels. Donc c'est-à-dire que quand Christopher Walken se mange une tarte de la part de ses geôliers et se met à pleurer, c'est pas du jeu. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment mangé une baffe et il s'est vraiment mis à pleurer sur le plateau. Et Michael Cimino, avec l'accord de Christopher Walken évidemment, a conservé ces prises-là dans le montage final. C'est une scène de pur cauchemar. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça dépasse de très 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 loin en termes d'intensité tout ce que j'ai pu voir dans n'importe quel film d'horreur confondu, parce que y a une réalité qui se joue en fait devant la caméra. Il y a une réalité de gens qui se sont embarqués dans un projet qui les dépasse complètement et qui prennent des coups, qui souffrent physiquement, qui souffrent mentalement pour aller au bout de ce projet. Et en fait, dans cette scène-là, il y a à la fois évidemment le traumatisme de la guerre du Vietnam, mais il y a aussi la nature extrêmement douloureuse, extrêmement torturé de la fabrication de ce film. Et je fais juste une petite parenthèse pour donner aussi un aperçu de la noirceur du tournage de ce film-là. Il y a un acteur absolument formidable, essentiel du cinéma américain qui joue dans ce film, qui s'appelle John Cazale. Et John Cazalet, lorsqu'il tourne Voyage au bout de l'enfer, il est atteint d'un cancer du poumon, il est en phase terminale, il sait qu'il va mourir. Et Michael Cimino, avec le soutien de l'intégralité de son casting...
Et de son épouse Meryl Streep.
Et de son épouse Meryl
Streep. Dont ça va être le premier rôle important au cinéma.
Et avec le soutien de cette équipe-là, Michael Cimino a réussi à convaincre les producteurs de quand même faire tourner Cazalet, qui finira par mourir avant la fin du tournage, donc il n'a jamais vu le film fini. Et ce qui est sidérant, mais vraiment sidérant, quand on regarde le film, c'est que Cimino... film John Cazalet véritablement comme quelqu'un qui va mourir, alors que son personnage n'est pas censé mourir, il n'est pas malade son personnage, mais Cimino va véritablement filmer la souffrance de ce gars-là qui sait que c'est son dernier film, qui sait que bientôt il ne sera plus là, et c'est mais absolument déchirant. C'est extrêmement, je le répète, c'est extrêmement difficile à regarder Voyage au bout de l'enfer.
Il faut voir Voyage au bout de l'enfer, mais il faut être accroché.
Oh oui.
Un mot, quelqu'un ? Non, personne ?
Je le redirai encore et encore. Vraiment, là, tout ce que tu as raconté sur Cazalet, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est, ça se sent dans le film. Et vraiment, j'ai vu le film sans savoir qu'il fallait être accroché. Et vraiment, ne regardez... Regardez ce film parce qu'il est important. Mais ne le regardez pas si vous n'êtes pas dans un bon mood. Enfin, c'est un film qui est très, très... très dur, mais qui est d'une beauté et d'une justesse. Et je suis d'accord que pour moi, c'est l'un des meilleurs films, sans en parler de la guerre du Vietnam, en fait. Parce qu'au final, c'est celui qui parle le mieux des personnes qui l'ont vécu.
Mais parce qu'il parle de l'avant et de l'après. Voilà.
Oui,
en
fait.
Et
il ne parle pas vraiment de la guerre du Vietnam.
C'est ça, mais en fait,
Vietnam,
il parle des personnes qui l'ont fait. Et en fait, c'est ça qui est important.
C'est un film... moi, ça fait partie des films les plus importants de ma cinématographie. Enfin, en fait, des films qui m'ont fait basculer dans un rapport au cinéma en me disant... on peut faire ça, on peut voir ça, on peut représenter ça.
Exactement.
Et je mettrais au même niveau Gloria de Cazavetz, qui est un film qui m'a bouleversé de la même façon, qui sont vraiment des films... oui, vraiment, mais plus fort encore une fois. C'est marrant parce que j'aime beaucoup Apocalypse Now, mais Voyage au bout de l'enfer...
Il raconte un truc qui est là.
Ce sont des films... qui vous laisseront
mais
pas indifférents.
C'est ce que dit Mélanie, c'est que le drame du film, le drame que le film met en scène, et il se joue en partie aussi devant sa caméra au moment du tournage, en fait. Et c'est ça qui est assez sidérant. Je terminerai juste sur un petit mot là-dessus, parce que, évidemment, l'un des acteurs les plus importants de mon panthéon cinéphile, c'est Robert De Niro.
Ah,
et je pense que le personnage que joue Robert De Niro, qui s'appelle Michael Vronsky, qui est donc le chasseur de daims qui donne son nom, qui donne son titre au film. Et pour moi, et je pense que ça restera comme ça pour toujours, le plus grand personnage de cinéma jamais filmé.
Oui, et puis...
de tous les temps.
Et Christopher Walken, qui est un acteur magistral, qui se révèle dans ce film. Enfin bref, quand les mots commencent à nous manquer pour parler des films, c'est vous dire à quel point ces films-là sont importants. Donc, est-ce que vous êtes, vous, plutôt roulette russe ou pierre, feuille, ciseaux? Vous
pouvez... Oh, la conclue. Je sais pas. Je te dirai la semaine prochaine. Je vais réfléchir à cette question.
Vous pouvez en parler en tout cas en commentaire. En tout cas, voilà, vous retrouvez toute la petite équipe vendredi prochain pour les sorties de la semaine. Il sera notamment question de Scream 6 et de The Whale, autant dire du cinéma de qualité. Moi, je vais disparaître quelques semaines dans les ombres, le temps de finir en roman. Bah oui, pourquoi pas. Je vous retrouve en tout cas à la fin du mois, bien, bon pied, bon œil, frais comme un gardon. Mais ne vous inquiétez pas, vous restez entre de bonnes mains. La substitution sera à peine apparente, d'autant qu'elle est réalisée sans trucage. Allez, bye les amis, et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.